Alors, une première lutte pour démarrer, effectivement, puisqu'on aura en direct de Lille au téléphone Hélène Desplanques, qui est auteure d'une pièce de théâtre militante qu'elle a montée avec une compagnie de théâtre locale et puis les employés de l'usine Samsonite à Hénin-Beaumont qui sont entrés en lutte après la fermeture soudaine et complètement abusive de leur usine par un fonds d'investissement américain.
Mais d'ici là, on va se mettre dans l'ambiance lutte.
Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout.
C'est l'histoire vraie d'une lutte collective racontée par celles qui l'ont vécue. 20 ans de travail à l'usine Samsonite d'Hénin-Beaumont, une vie à fabriquer des valises à la chaîne. Mais en 2007, brutalement, tout s'arrête. L'usine est liquidée par des patrons voyous et les 200 ouvrières laissées sans rien.
Vous avez touché à nos salaires, vous touchez à nos enfants. Et ça, je ne l'accepterai jamais.
Face à elle, un fonds d'investissement, Bain Capital, géré par Mitt Romney. Il rachète les usines pour mieux les vendre à tour de bras. En 2012, Romney est candidat à l'élection présidentielle américaine. Alors elles iront le défier. Leurs armes, des procès et des manifestations jusqu'aux États-Unis.
Non, le principal, c'est que nous, maintenant, on sait qu'on est capable de faire tout ça.
Et oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front. Et c'était un extrait de la présentation qui avait été faite sur Arte de la pièce « On n'est pas que des valises » ou « L'épopée des salariés de Samsonite ». Puisque ce soir...
On est en ligne avec Hélène Desplanques qui nous appelle de Lille. Hélène, est-ce que tu nous entends ?
Oui, je vous entends très très bien.
Super, bonsoir et merci d'être avec
bonsoir,
nous.
Bonsoir Paris.
Donc la pièce dont on va parler ce soir est un peu particulière. Donc elle s'appelle, comme Juliette l'a dit, On n'est pas que des valises ou l'épopée des salariés de Samsonite. Et elle est un peu particulière à plusieurs titres. D'abord, c'est une histoire vraie. Et peut-être que tu peux tout à l'heure commencer par nous re-raconter l'histoire de ce méchant fonds d'investissement américain qui ferme cette usine à Hénin-Beaumont. Et puis particulière à un deuxième titre, puisque les comédiennes qui jouent dans la pièce n'étaient pas vraiment comédiennes au départ. Certaines, je crois, n'étaient même pas tout à fait rentrées dans un théâtre. Et ce sont elles qui jouent dans la pièce. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et est-ce que tu peux nous rappeler, avant peut-être de nous raconter cette épopée, ce qui s'est passé dans la vie et qu'est-ce que fonds américain a fait?
Déjà, moi, c'est une histoire que j'ai croisée il y a 11 ans. Je suis réalisatrice de documentaires à la base et ça se passe dans ma région. C'est-à-dire que c'est à Hénin-Beaumont qu'en 2007, l'usine Samsonite ferme, laisse sur le carreau 200 ouvriers, majoritairement des ouvrières, puisqu'on est plutôt dans du textile. À la base, elle fabriquait des valises souples. Donc, elles étaient sur leur machine à coudre. Et puis, il y a une sombre histoire, en fait, de revente frauduleuse. C'est-à-dire que Samsonite veut se débarrasser du site, son dernier site français, en activité. Et plutôt que de fermer l'usine proprement, on va dire, en mettant en œuvre un plan social de ce nom, ils trouvent des repreneurs, mais en fait, c'est des repreneurs voyous, c'est des faux repreneurs qui vont avoir pour mission de faire péricliter l'activité et de mettre la clé sous la porte, de faire une liquidation et de laisser les ouvriers, après 20 ans de boîte, sans aucune indemnité. Voilà, c'était ça leur joli job.
Et ce fonds d'investissement,
ça a été condamné par des juridictions françaises devant la cour... devant la Cour de justice de Paris.
Et ce fonds d'investissement est dirigé par Mitt Romney, si je ne m'abuse.
Voilà, donc Samsonite à l'époque, donc évidemment, donc les 200 passionnariats des terrils se lancent dans plusieurs procédures judiciaires avec sur les conseils de Fyodor Rylov, qui est un avocat un peu particulier, très engagé dans les luttes sociales. Et au fur et à mesure donc, des procédures, on se rend compte qu'effectivement, à l'époque, Samsonite est en fait la propriété de Bain Capital, qui est un fonds d'investissement américain à Boston, et que ce fonds d'investissement a été créé et dirigé par Mitt Romney. Et au fur et à mesure de l'avancée de cette histoire, Fyodor dit ce qu'il faut faire, c'est aller attaquer aux États-Unis le fonds d'investissement devant la Cour de justice de Boston. Et là, on est en 2010, et ce qui est assez incroyable, c'est qu'en 2012, Mitt Romney, donc le patron de ce fonds d'investissement, va se présenter à la présidentielle américaine face à Barack Obama.
Tranquillement.
Voilà. Et donc c'est vrai que je me retrouve, moi, racontant toute cette histoire, avec des ouvrières du bassin minier du Pas-de-Calais qui attaquent en justice quasiment le futur président des États-Unis. Voilà, donc forcément, on a un scénario, j'ai envie de dire, du réel, qui est très exaltant. Et moi, j'accompagne toute cette lutte, je filme, parce que c'est mon métier. Et en 2014, en fait, quand la Cour de justice de Boston nous annonce qu'il y a prescription, c'est-à-dire que... Parce qu'elles font deux voyages, hein, elles font un premier voyage.
Elles sont allées, effectivement, vous êtes allées là-bas.
Elles ont manifesté sur la 5e avenue, hyper rocambolesque. Pendant une semaine, on a été soutenir des ouvrières de Chicago sur leur usine, qui était aussi licenciée par Bain Capital. Et on fait un deuxième voyage en 2014 pour assister au procès, parce qu'il y a un procès. Et à l'issue de ce procès, la Cour nous dit il y a prescription, en fait, c'était trop tard. Enfin, c'était trop tard pour juger. On peut plus la juger l'affaire sur le fond. Donc, grosse frustration. Et puis, là, je me dis qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour prendre ma part de ce combat que je trouve assez héroïque, en tout cas exemplaire. Et je pense à la pièce de théâtre.
Et tu avais un peu de connexion dans le Nord et tu trouves du coup une compagnie théâtre et une metteuse en scène qui accepte de prendre part au projet, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Marie Liagre, qui est une amie de longue date, je lui en parle tout de suite et elle me dit « Banco, on y va ». Sans elle, évidemment, j'aurais pas fait. Parce que c'est moi, j'ai écrit la pièce, parce qu'effectivement, j'ai tout vécu. Donc, je me dis, je vais transposer ça en pièce de théâtre. Mais l'idée de base, tout de suite, c'est qu'elle monte sur scène, elle.
Dès le départ, vous avez imaginé que ce serait passionnariats, comme tu les appelles, qui monteraient sur scène.
Ouais, que les ouvrières deviennent des ouvrières comédiennes.
En leur en parlant, elles étaient, elles, d'accord,
ah bah,
dès le début.
Elles m'ont dit, mais c'est pas possible, on va jamais y arriver, n'importe quoi ici. N'importe quoi ici, c'est vraiment un mot typiquement du bassin minier. N'importe quoi ici.
Ici.
Voilà, ça c'était la réponse. Bon, et puis en fait, on se connaît quand même très très bien, il y a une complicité entre nous, et je savais qu'après avoir pris 5 avions pour les États-Unis et tout ça, elles avaient assez de folie en elles pour se laisser convaincre. Et je ne me suis pas trompée. Donc elles ont finalement accepté, enfin 7 d'entre elles ont accepté de monter sur scène. Et comme tu le disais au début, c'est vrai que ce qui est assez fou, c'est que pour la plupart, elles n'étaient jamais rentrées dans un théâtre avant, quoi.
Et donc là, vous avez mis combien de temps pour travailler avec Marie Liagre, du coup, et sa compagnie ?
Ben, on a pris le temps, hein, c'est-à-dire que puis c'est des femmes qui sont aussi encore en activité pour la moitié d'entre elles, qui ont un travail. Donc on a travaillé 7 mois, en fait, le soir, une grosse soirée par semaine. Et ensuite, on a fait une résidence d'un mois, parce que c'est vrai que le projet, à la base, a toujours été très ambitieux. On ne voulait pas faire un projet au rabais parce que c'est des comédiennes ouvrières. On voulait que ça ait de la gueule, on voulait que artistiquement ça tienne la route. On est très fiers du résultat. Mais du coup, il a fallu travailler longtemps et beaucoup. Donc donc la création a pris 8-9 mois.
Et donc après, c'est 7 mois de cours du soir et cette résidence d'un mois. Donc une résidence, hein, c'est un moment un peu entre parenthèses pendant lequel on travaille un peu intensément les pièces de théâtre, si je ne m'abuse. Ouais. Après, une fois que la pièce a été bouclée, vous aviez travaillé en parallèle des endroits où se produire, ou comment vous avez après imaginé la suite, une fois que le projet était bouclé artistiquement, j'allais dire?
Bah, ce qui est assez rigolo, c'est qu'effectivement, bah, quand je leur présente le truc, je me dis, on va jouer 3 fois à Lens, quoi, et à Liévin. Mais c'est vrai que très vite, on a vu qu'en tout cas, déjà sur le territoire, c'est-à-dire Pas-de-Calais, bassin minier, il y avait une vraie réponse de la part des lieux de diffusion, théâtres municipaux, etc. Et puis, donc, on avait quand même une dizaine de préachats avant même qu'ils voient le spectacle. Donc ça, c'était déjà pas mal. Et ensuite, quand on a commencé à tourner sur ces lieux-là, d'autres programmateurs des Hauts-de-France sont venus et tous étaient convaincus de la qualité du spectacle. Donc, nous ont programmé eux-mêmes au fur et à mesure, ce qui fait qu'on a fait quand même 30 dates sur les Hauts-de-France.
Et très concrètement, cette pièce, elle raconte la lutte depuis 2007 où on apprend que l'usine va fermer et passe par les États-Unis, les procès, etc. Ça met en scène véritablement toute l'épopée, en fait. Hein, c'est bien ça?
Oui. Alors le projet, c'est ça. Moi, j'ai fait un film documentaire sur elle qui s'appelle Liquidation Totale, qui avait été diffusé en 2010 sur des chaînes comme Public Sénat, France 3 et tout. Mais la frustration pour avoir tout vécu, c'était de dire... c'est une épopée judiciaire, sociale, économique de 11 ans. Il faut la raconter dans son entièreté, quoi. C'est ça qui est bluffant, d'avoir cette ténacité de femmes qui ont démarré l'usine à 14 ans et qui se retrouvent à Boston dans une cour de justice alors qu'elles ne parlent pas un mot d'anglais, qu'elles n'avaient jamais pris l'avion. Enfin, voilà, c'est ça qui est... C'est ce parcours-là, ce débattement, en fait. Moi... ce qu'elles m'ont vraiment transmis, c'est ça, c'est le fait de toujours se dépasser parce qu'on est porté par un combat, qu'on est engagé, puis qu'on est quand même une bonne bande de copines, quoi. Enfin, c'est vraiment on se marre, quoi. C'est quand même le domaine de la blague. Entre elles se connaissent depuis qu'elles ont 17 ans, quoi. Elles en ont 60 aujourd'hui. Donc tout ça, c'était quand même dans la bonne humeur et tout ça, mais c'est vrai que le projet de la pièce, c'était ça, c'était raconter toute l'histoire et puis de donner du peps. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout larmoyant, ce n'est pas un truc fataliste, genre il n'y a plus de travail et nos régions sont désœuvrées. Non, c'est vraiment quand on combat, on peut changer les choses, on peut faire bouger le monde, quoi.
Elles ont quand même, enfin, outre l'aspect juridique et la guerre, c'est vraiment des guerrières. Enfin, quand on imagine effectivement que Mitromné se présente et qu'on va se mettre face à lui, c'est quand même pas évident. Et voilà, elles doutent de rien, elles y vont. Mais j'imagine que du coup, le théâtre finit de les transformer complètement. Enfin, elle, je ne sais pas quel est leur ressenti, elle, de cette pièce de théâtre, et si ça leur a paru hyper compliqué, ou au contraire, parce qu'elles se connaissent très bien et qu'il y avait une super ambiance, c'était facile. Mais du coup, elles doivent être complètement transformées par toutes les péripéties, quoi.
Ben, c'est vrai que c'est une nouvelle étape, en fait, de transformation, de comment cette lutte, c'est quelque chose que je dis souvent, cette lutte avant même de changer le monde, elle les change elle-même. Il se trouve que là, le théâtre, c'est un moyen de lutter supplémentaire, en fait. Hein. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'aurais présenté, c'est comme ça qu'elles s'en sont emparées. Après, c'est une incroyable... Ouais, maintenant elles sont addictes. Enfin, Marie, la metteuse en scène, elle dit... que sur scène, c'est la coque pure que tu reçois, en fait, dans les veines, quoi. Moi-même, je ne suis pas sur scène, donc je ne veux pas tout à fait ressentir ce qu'elles ressentent, mais quand il y a 600 personnes à Lens qui se lèvent à la fin et qui leur font une standing ovation en reprenant tous ensemble, pendant 5 minutes, je pense que c'est des doses d'amour qu'on ne peut pas imaginer. Donc, là, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça fait un an et demi qu'elles sont en tournée, elles n'ont pas envie que ça s'arrête, quoi. En tout cas, pas tout de suite.
Et du coup, elles ont fait combien de représentations? Tu parlais tout à l'heure d'une dizaine de préachats et en fait une trentaine de dates.
Oui, 30 pour l'instant, okay. En tout, mais quand même sur un an et demi.
Ok, ça représente, tu sais à peu combien de spectateurs ça représente?
10 000, okay. On a fait le compte, 10 000.
Solide. Et alors, après ces 10 000, naît un projet fou, encore plus fou, qui est de se rendre à Avignon avec la pièce, c'est ça, la prochaine étape?
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, que Marie a dit aussi, finalement, de leur entêtement et de leur combat, leur pugnacité, nous aussi, on s'inspire. C'est-à-dire que ça se diffuse dans la compagnie. On est à la fois des professionnels et des comédiennes ouvrières. On est une quinzaine. Il y a aussi des comédiens professionnels sur scène et évidemment des régisseurs pros, Marie et moi en coulisses. Et donc, tout le monde s'est dit, mais en fait, une aventure comme ça, c'est une aventure humaine, artistique, assez exceptionnelle, pour la vivre complètement, allons jusqu'à Avignon. Sauf que c'est assez fou, en fait, parce que emmener une troupe de 15 personnes, et puis il faut compter les maris. Parce que il y a quelques maris qui seront du voyage, il y a des bénévoles, enfin bon. Donc, on est plutôt 20, en fait, à partir là-bas, et en fait, une compagnie doit s'autoproduire à Avignon dans le off. Donc, ça nous amène quand même à un budget de 100 000 euros pour un mois, parce que finalement, à Avignon, on joue 25 jours. Hein.
Okay.
C'est ça le contrat avec les salles. Et voilà. Et donc, on s'est lancé dans ce défi. Et puis, au fur et à mesure, on trouve des partenaires, etc. Il nous manque encore un peu de fonds. Mais on a trouvé par exemple des astuces pour loger tout le monde. On a trouvé un hébergement au lycée agricole de Carpentras.
Très bien.
Voilà, par exemple.
C'est parfait.
Donc ça c'est parfait.
Et du coup, il y a quand même, tu dis, vous avez trouvé un peu de partenaires. Il y a des partenaires institutionnels qui sont quand même au soutien, en plus du coup
oui,
des fonds.
Oui, il y a la région, le département du Pas-de-Calais, la communauté de communes de Hénin-Carvin. On a une mutuelle, Sonibut, qui est aussi partenaire.
Okay.
Et voilà, aujourd'hui, il nous manque à environ 15 000 euros.
Et alors, comment on fait si on a envie de vous soutenir?
Alors, comme de bien entendu, on a lancé une campagne de crowdfunding.
Très bien.
C'est ce qu'on fait dans ces cas-là. Et donc, elle se trouve sur le site zest.coop.
Très bien.
Zest comme un citron. Hein, voilà. Comme ça, c'est mémotechnique. Et puis voilà, après on cherche le projet Samsonite et puis là, il n'y a plus qu'à.
Super, eh bien j'espère que nos très nombreux et très nombreuses auditeurs et auditrices...
Ah, mais c'est pour ça que j'ai insisté pour passer dans cette
mais
émission.
Tout à fait, c'est dans celle-là qu'on voulait. et voilà, c'est vraiment loin d'être n'importe quoi aussi. C'est un super projet, bravo. Et on espère que ça va marcher pour cet été et que tu trouveras l'ensemble des financements. Nous, on mettra les liens sur le site des Oreilles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bon courage pour la suite.
Merci Marion. À bientôt les Parisiens.
On ne s'est pas laissé faire. On était très en colère.
On est des Samsonites. On sera toujours des Samsonites. C'est ce qu'elle a dit ce jour-là, ma mamie. Faut dire que l'usine, elle a ouvert, j'étais même pas née. Même maman, c'était encore qu'une petite graine dans le ventre de mamie. C'était il y a très longtemps, en 1984. Et vous savez quoi? C'est la même année que l'autre histoire commence aussi. Là-bas, de l'autre côté, en Amérique. Un monsieur qui veut devenir très important crée une entreprise qui sert à racheter toutes les autres. On appelle ça un fonds d'investissement.